Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Access sur Prune 92 FM, tous les troisièmes jeudis du mois, avec Nelson, Anthony. Alors normalement il y a Alice, mais aujourd'hui malheureusement elle ne pourra pas être présente avec nous, donc on pense bien à elle, mais aujourd'hui elle ne pourra pas être présente. Donc le but de l'émission Access, c'est de présenter les personnes ou responsables de lieux et associations qui proposent des événements inclusifs et accessibles à tous, personnes valides et personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, mes invités donc, seront Élodie Goriou. Élodie, bonjour.
Bonjour.
Donc, Élodie Goriou, qui est directrice de l'UFOLAB 44. Floriane Nivet, qui est présidente de Baskin France. Floriane, bonjour.
Bonjour.
Et Benjamin Boucheron, qui est membre du conseil d'administration d'Orea et de Baskin France. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Donc avec eux, nous parlerons du Baskin et du grand événement qui est organisé par l'UFOLAB 44, Orea et Baskin France, c'est-à-dire le grand tournoi européen Baskin Game qui aura lieu les 5, 6 et 7 juillet prochains. Donc aujourd'hui, la chronique sera une rediffusion, puisque comme je l'ai dit, Alice ne peut pas être présente. Donc la chronique sera une rediffusion, donc juste après l'interview. Donc on va commencer. Donc merci Benjamin, Floriane et Élodie d'être avec nous aujourd'hui. Donc pouvez-vous nous présenter donc vos structures? Alors je vais commencer par Élodie de l'UFOLAB 44.
Alors, donc l'UFOLAB 44, c'est une fédération multisport qui prône justement l'accessibilité à toutes et tous pour la pratique de l'activité physique, en loisir ou en compétition. Et donc, on accompagne le Baskin avec notamment Orea depuis plusieurs années, plus de 12 ans, je dirais maintenant.
Ouais, je pense. On n'est pas loin, en fait. Hein, ça passe vite.
Oui. Et donc, Floriane, peux-tu nous présenter du coup Baskin France?
Oui, Baskin France existe depuis 2017 suite à l'activité de plusieurs clubs qui proposent du Baskin. On a décidé d'organiser une association plutôt nationale, enfin de mettre en place une association nationale. Et donc actuellement, ça regroupe 13 clubs et associations qui pratiquent le Baskin sur le territoire français.
Et Benjamin, peux-tu nous présenter l'association Orea?
Ben, Orea, c'est une association qui met en avant le vivre ensemble et la mixité valide et personne en situation de handicap. Notamment, on met en avant le Baskin, qui est un sport inclusif, novateur. Et puis on a aussi des sensibilisations. On sensibilise à tout type de handicap, le handicap physique, moteur. Surtout les...
Et l'handicap sensoriel.
Oui, handicap sensoriel, handicap moteur.
Et en fait, vous faites des sensibilisations à tous les handicaps.
Exactement. On sensibilise à technique, par exemple, pour les techniques de guide voyant pour les malvoyants. On fait de la parcours fauteuil pour les personnes en fauteuil. On fait de la LSF aussi.
LSF,
c'est
pour les personnes sourdes. D'accord. Très bien. Alors, Floriane, peux-tu nous présenter le Baskin? C'est le Baskin et comment ça se pratique?
Le Baskin est un sport collectif. Ça se pratique à 6 contre 6 sur un terrain de basket auquel on ajoute 2 paniers. En tout, il y a 6 arceaux où marquer des paniers. Et on joue donc ensemble, qu'on soit porteur de handicap ou valide. Tout type de handicap et tout type de pratique qu'on ait déjà fait ou pas du basket ou d'autres sports collectifs. C'est-à-dire que ça regroupe des personnes novices et puis des personnes expertes en sport. Ça se joue en mixité, hommes-femmes, valides en situation de handicap et donc débutants et experts du basket.
Et alors donc, Élodie, Floriane et Benjamin, est-ce que vous pratiquez le Baskin? Et si oui, quel rôle vous avez? Parce que moi qui le pratique aussi, je sais qu'il y a des rôles. Donc je vais commencer par toi, Élodie. Est-ce que tu pratiques le Baskin?
Alors, J'ai déjà pratiqué sur des événements, on va dire, grand public qu'on a pu organiser avec Auréa et Baskin France pour faire découvrir le Baskin. Donc à ce moment-là, on m'avait mis un rôle, je pense, qui... Voilà,
rôle 4. Moi,
rôle 4, ouais. On m'avait mis un rôle 5, c'est pas du tout ma place, mais...
Plutôt rôle 4.
Mais oui, voilà, j'ai déjà pratiqué, mais je pratique pas de manière régulière.
Moi, je suis rôle 4 aussi. Après, je vais expliquer les rôles. Vas-y, Benjamin, toi, t'es quel rôle ?
Moi, je suis rôle 2, donc un des rôles pivots 1 et 2. Moi, je pratique depuis 10 ans, j'ai un peu connu tous les rôles, en fait. Toutes les particularités des rôles pivots, en fait, je les ai un peu tous faits.
Benjamin a commencé rôle 1, en fait, il y a un panier, exactement, un arceau à 1m10. Et puis, il a progressé en force, en dextérité, il est passé rôle 2, où il faut dribbler et tirer à 2m20. Et puis là... Il est en train de passer 2T, comme toi, Anthony, où là, il faut quelqu'un qui l'aide à se mettre en place. Il n'est plus obligé de faire les dribbles. Et il peut récupérer le ballon, on lui fait la passe et il redonne le ballon en passe aux autres joueurs.
C'est les années qui passent et le physique qui change un peu. Mais sinon...
Ça fait partie de la vie. Et donc, le Baskin, ensuite, il y a les rôles 3, qui sont des personnes qui peuvent courir, se déplacer sur tout le terrain, mais qui n'ont pas la vision et ou la compréhension et la dextérité suffisantes pour être rôle 4 ou rôle 5. Et rôle 4, c'est plutôt des personnes qui viennent d'autres sports collectifs, type hand, foot, ou qui pratiquent du sport occasionnellement, mais qui n'ont pas la dextérité, la force et la vitesse d'un rôle 5, qui lui est plus quelqu'un qui vient du monde du basket, ou un rôle 4 qui a progressé. Et des fois, c'est même des rôles 3 qui passent rôle 4, puis rôle 5. Là, on a de la force, de la vitesse, on arrive à tirer dans les paniers de basket qui sont à 3m05. Et on a une vision du jeu et on peut aider nos autres joueurs qui sont rôle 4, 3, 2 ou 1. Tu veux que je continue sur les rôles, Anthony ? Tu veux que je précise l'équipe ?
Oui, Julien, oui. Ouais. Oui.
Alors, une équipe de Baskin, ça se compose de 6 joueurs, 2 rôles 5, au minimum 2 rôles 5, 1 rôle 3 et 1 pivot qui est rôle 1 ou 2. Et on y ajoute soit un deuxième rôle 3, soit un rôle 4. Après, on peut faire des compositions, on ne peut pas dépasser 23 points, c'est-à-dire sur le terrain, on est obligé d'avoir la mixité de tous ces rôles. 6 joueurs, voilà, rôle 5, 3 et 2 ou 1 à minimum. Et en fait, en face de nous, on va avoir des personnes du même rôle sur lesquelles défendre, sauf les pivots qui n'ont aucune défense, qui ont comme des lancers francs en 10 secondes à faire dans une zone protégée. Et on vient dans cette zone voir notre joueur de notre équipe quand on le souhaite. Il y a de la tactique pour pouvoir rentrer en zone et puis de la défense. Voilà, ça reste un sport collectif où on essaie de jouer avec tous ses joueurs et tout le monde peut marquer des paniers qui valent 2 ou 3 points.
Est-ce que l'on peut même dire, si jamais il y a des basketteurs ou basketteuses qui nous écoutent, c'est que dans le Baskin, en fait, c'est vraiment un sport où les personnes valides et les personnes en situation de handicap peuvent jouer ensemble. Et en fait, chacun joue comme il est. Et que contrairement à d'autres sports, du coup, là, ce qui est bien, c'est que la personne valide n'est pas obligée de se mettre en situation de handicap. Et que, en fait, comme c'est avec les règles du basket, et ben que du coup, par exemple, un basketteur pourrait très bien être dans la même équipe qu'une personne non-voyante ou une personne en fauteuil. Donc, c'est ça qui est vraiment super dans ce sport.
Bah, tu sais bien, Anthony, tu le pratiques.
Et oui, c'est pour ça que je dis ça justement, parce que c'est, oui, j'ai toujours plaisir à dire ça justement.
Tu as raison, tu as complètement raison. Dans l'équipe, on est tous mélangés et on essaie de jouer tous ensemble. Et ça n'empêche pas de jouer avec ses capacités. On ne se ralentit pas pour jouer avec l'autre. On joue avec l'autre, on le connaît. On sait qu'on peut lui faire une passe soit à terre, soit direct, suivant la force qu'il a. On apprend à se connaître pour pouvoir jouer ensemble. Et donc, il y a des tactiques très différentes puisqu'il y a 2 zones d'attaque. Ce qui est différent pour les basketteurs et basketteuses, ce qui leur demande un temps d'adaptation, mais qui permet de mettre en avant leur capacité de compréhension du basket, de dextérité, sans renier leur capacité, mais en jouant d'autant plus avec les autres. Et qu'ils soient effectivement non-voyants, en fauteuil, avec une déficience intellectuelle ou débutants, Et puis, des fois, on est rôle 4 longtemps. Moi, je suis rôle 4 depuis plus de 10 ans. Je reste rôle 4. Je ne suis plus une débutante, mais je reste rôle 4.
Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les 5, 6 et 7 juillet prochains, Auréa, l'UFOLEV 44 et Baskin France, vous organisez donc le grand tournoi européen, les Baskin Games. Alors, du coup, Floriane, est-ce que tu peux nous présenter cet événement ?
Oui, bien sûr.
Ainsi que sa programmation.
Oui, je vais me faire aider d'Élodie.
Et puis avec Élodie, bien sûr, avec Élodie Benjamin, bien sûr.
Donc, il y a quasiment un an maintenant, on avait envie d'organiser un événement assez d'une ampleur assez grande, assez optimiste aussi.
Oui, à la base, ça devait être un événement national. Oui. Et puis finalement, vu que le Baskin est européen, on s'est dit pourquoi pas pousser les frontières.
Allons-y. Comme c'est une année où les JO vont être organisés en plus en France, on avait envie aussi de faire un gros coup de pouce dans la visibilité du sport inclusif. Le Baskin en étant un des meilleurs exemples, voire l'exemple... The exemple du sport inclusif. Donc, on s'est associé avec l'UFOLAB 44 et puis une des associations locales, donc qui est Orea, qui est l'association qui a débuté le Baskin en 2011-2012 sur le territoire français. Donc, comme Orea voulait aussi, d'ailleurs, cette année, organiser quelque chose plutôt loisir pour tous et tout, et Baskin France, un événement plutôt national. Et eh ben on est parti carrément sur un événement européen. Donc le 5, 6, 7 juillet, il y aura 8 équipes, 4 équipes françaises, Paris, Lyon, avec la MPT des Rancy, Paris c'est Novo Sport, et puis
Nantes, Auréa.
Nantes, merci, Auréa.
Et le smash
en Vendée. Voilà, et pour les équipes européennes, on a 2 clubs italiens, les Bears Baskin et les Reggio Emilia Baskings. Esch-sur-Alzette du Luxembourg et Anglure de Belgique. Voilà. Je ne suis pas trompée. Hein.
Non, c'est ça.
Vous voulez compléter sur le déroulé ?
Alors, sur le déroulé, on a la chance, en tout cas, d'avoir une mise à disposition de 2 belles salles par la ville de Nantes, notamment la salle annexe du Palais des Sports de Nantes et le gymnase du Pré-Gaucher, qui nous permet de démarrer les matchs dès le vendredi, donc 5 juillet, vers 15h, si je ne me trompe pas. Donc ça nous permettra de lancer en tout cas le tournoi avec un match au Palais des Sports et un match au Pré-Gaucher. On a un petit temps aussi de présentation de l'ensemble des équipes au Palais des Sports le soir. Et ensuite, on enchaîne le samedi avec des matchs toute la journée, puis les finales le dimanche matin. Donc, c'est vrai que ça permettra d'avoir une visibilité sur les différentes façons aussi de pratiquer le baskin, parce que d'un pays à l'autre, alors c'est les mêmes règles, mais ça nécessite aussi d'appréhender, comme tous les sports collectifs, les équipes adverses. Et faut rappeler aussi que c'est un événement qui est ouvert à tous et à toutes, donc c'est un accès libre. Il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas d'entrée payante. En tout cas, l'objectif c'est de faire connaître et de venir apprécier le spectacle de ce sport inclusif.
Donc j'espère que vous viendrez nombreux et nombreux assister à ce grand tournoi européen des Baskin Games. C'est la première année, je crois, que vous organisez cet événement.
Tout à fait, c'est la première fois qu'on organise un événement de cette ampleur, oui. Auréa avait déjà fait quelques invitations. On avait déjà invité Esch-sur-Alzette il y a 2 ou 3 ans et puis un club italien en 2015, il me semble, ou 2016. Donc voilà, ça remonte un petit peu. Donc là, c'est l'occasion de voir les clubs. Paris, ça existe depuis une année. L'MPT des Rancy, Lyon, ils ont fait leur premier tournoi en janvier. Donc c'est assez. Ils sont venus aussi. On les avait invités Auréa l'an dernier. Ou il y a 2 ans. Donc voilà, c'est pour eux une opportunité, une belle opportunité de rencontrer d'autres équipes. Il faut savoir qu'il n'y a encore pas d'événement national du baskin. On aimerait bien, ça va venir, mais on est 13 clubs, donc il faut aussi laisser le temps à chacun d'organiser des matchs localement. Et puis petit à petit, on pourra arriver sur plusieurs tournois, on va dire, régionaux et nationaux. Mais pour l'instant, ça reste encore, à part en Pays de la Loire, pour les équipes nouvelles, comme sur. Il y a des équipes aussi à Molsheim et Strasbourg, pas beaucoup de matchs dans l'année. Donc c'est une chouette opportunité pour ces clubs-là de pouvoir rencontrer et jouer 3 matchs sur un week-end. Donc c'est intéressant.
Et c'est vrai que dans l'évolution du baskin, au départ, on était uniquement sur une pratique de loisirs avec. Finalement, beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'initiation à droite et à gauche. L'objectif aussi de la création de Baskin France, c'était de promouvoir sur les territoires le baskin et aussi de constituer un championnat. parce que forcément, à force de jouer, de progresser, on a envie aussi de se confronter aussi aux autres. Et la compétition est très bien pour ça. Et c'est depuis justement qu'il y a eu cette création, qu'il y a pu avoir un championnat régional, en tout cas en Pays de la Loire, et qui permet en tout cas d'avoir une meilleure visibilité en tout cas de l'activité sur le territoire. Et ça, c'était aussi un des axes de développement dans le partenariat entre Baskin France et l'UFOLEP.
Et comment ont été choisies les équipes qui vont être dans ce tournoi ?
Alors, ce qu'on s'était dit de toute manière, c'est qu'il fallait une représentation nantaise. Donc, Auréa était toute choisie, presque.
Mais pas, finalement, non, on pensait faire un tirage au sort.
C'était pas le cas.
Et Auréa s'était mis pour aider avec l'UFOLEP 44 et Baskin France, mais on ne s'était pas imposé le fait de jouer et de s'imposer. Mais on a lancé un appel en janvier à tous les clubs, avec les dates qui ont changé d'ailleurs depuis. Mais on a lancé un appel, on a demandé aux Italiens de prévoir une ou deux équipes, et on a écrit aussi à tous les clubs européens. Et après, du fait des dates, et puis de trouver des minimum 14 joueurs pour jouer 3 matchs, généralement on vient plutôt à 18 joueurs, les dates et le coût financier aussi du déplacement, certains clubs se sont portés volontaires et d'autres ont décliné l'invitation malheureusement, avec grand regret, mais on devait faire un tirage au sort lors de notre AG le 16 mars à Paris. Et finalement, nous n'avons pas eu besoin de faire un tirage au sort puisqu'on avait exactement 8 équipes qui voulaient participer, dont Auréa qui avait postulé, le Smatch et en Pays de la Loire, c'est les seuls clubs à avoir postulé. Et Novo Sport, Lyon, ce sont les seules autres équipes françaises à avoir postulé. Et ensuite, pareil pour la Belgique et le Luxembourg. En Italie, il y a eu un tirage au sort. Il y a eu 8 équipes qui souhaitaient participer et donc ils ont fait un tirage au sort. Et la Serbie et la Grèce, c'est parti. On refera ça. On vous invitera. Ils avaient vraiment envie de venir.
Eh bien, on va écouter un morceau de musique. Et puis, juste après, on va se retrouver pour le site de l'interview de Floriane, Elodie et Benjamin pour parler du Baskin et du tournoi européen Baskin Game. Alors, Nelson, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute Globule Rouge, une chanson de Laurent Barden, Pupa Jim et Tigre d'eau douce. Thank you.
Access, de midi à 13h sur Prune.
Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans l'émission Access sur Prune 92 FM avec Anthony et Nelson. Donc Anthony au micro, Nelson à la technique. Et vous êtes toujours avec nos invités qui sont donc Élodie Goriot, directrice de l'UFOLab 44, Floriane Nivet qui est présidente de Baskin France et Benjamin Boucheron qui est membre du conseil d'administration d'Orea et de Baskin France avec qui nous parlons du Baskin et du grand événement qu'ils organisent les 5, 6 et 7 juillet, le tournoi européen Baskin Game. Alors tout à l'heure, en début de présentation, Benjamin, tu nous disais qu'il y avait des sensibilisations avec l'association Orea. Alors est-ce que du coup dans cet événement, dans les Baskin Games, il y aura des temps de sensibilisation ainsi qu'un espace, j'ai vu qu'il y aurait des temps de sensibilisation et qu'il y aurait un espace calme. Du coup, qui veut nous en parler ? Vas-y, donc je donne la parole à Floriane.
Donc en fait, ça va se passer sur la journée du samedi. Il y aura deux temps il y aura deux temps prévus à cet effet. Dans la salle 500, par exemple, de 10h30 à midi, il y aura un jeu sous bandeau. À la salle pré-gaucher, aux mêmes horaires, il y aura de la technique de guide. Et l'après-midi, de 14h30 à 16h, dans la salle 500, il y aura du braille, une présentation du braille. Et au pré-gaucher, un parcours fauteuil. Donc, voilà.
En fait, il y a quelques petits changements. A priori, ce serait 10h midi. Braille, découverte du braille, initiation braille et des jeux sous bandeau pour tout le monde. Et l'après-midi, le parcours fauteuil et la technique de guide au pré-gaucher. Est-ce que c'était plus facile au niveau organisation dans ces salles-là et ces disponibilités-là pour les bénévoles ?
Donc du coup, le matin, les animations auront lieu plutôt au Palais des Sports et l'après-midi, du coup, au gymnase pré-gaucher, c'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce que... Pourquoi ? Et il y aura, j'ai lu aussi qu'il y aura des temps calmes aussi.
En fait, on va proposer dans chaque salle un lieu de repli pour les personnes qui en ont besoin. Donc, il y aura dans la salle conviviale du Palais des Sports un petit espace avec tipi ou tente et puis des coussins, des casques anti-bruit et puis des petits objets sensoriels, voilà, pour se relâcher, se détendre, se mettre à part si besoin. Et dans la salle du pré-gaucher, on va essayer de mettre en place plutôt dans un vestiaire un petit espace repli. Pareil avec du matériel aussi.
Et ces temps de sensibilisation, ça a un lien avec le baskin ou est-ce que c'est pour proposer des événements en plus, des actions en plus des matchs ?
C'est un lien dans le sens où on sensibilise le handicap et on permet à tout le monde de comprendre et de faire ensemble des activités. Ça permet nos joueurs aussi et le public de se mettre à la place d'eux et de comprendre aussi comment aider et comment on fonctionne, comment fonctionne le déplacement en fauteuil, comment Anthony, tu arrives à lire un document qui nous impressionne tous là, puisque on ne peut pas lire les questions. Tu es le seul à pouvoir les lire. Et donc, ça permet de sensibiliser tout le monde, mais c'est aussi... le baskin, au-delà de la pratique, l'idée, c'est aussi le vivre ensemble et de savoir s'entraider et se connaître les uns les autres. Donc, ces temps de sensibilisation, ils répondent à ces besoins-là.
Et cet événement, les Baskin Games, est-ce que ça a un lien avec les Jeux Olympiques ou est-ce que c'est juste un événement qui a été organisé est-ce que ça a un lien avec les Jeux Olympiques ?
Alors non, ça n'a pas un lien avec les Jeux Olympiques parce que le baskin n'est pas une discipline olympique. Par contre, la demande, en tout cas nationale, c'était de valoriser la pratique sportive pour tout le monde et de faire, on va dire, de ces Jeux Olympiques un prétexte pour mettre en avant le sport. C'est d'ailleurs pour ça que le sport est la grande cause nationale aujourd'hui, sur l'année 2024. Et donc, au sein de l'UFOLEP, il y a plusieurs événements, plusieurs actions qui sont mises en place aussi pour promouvoir à la fois la pratique sportive de loisirs, la pratique sportive en compétition, la pratique de l'activité physique adaptée à travers les maisons sport santé, par exemple. Voilà, c'est un prétexte, voilà, c'est un temps fort. On sait que tout le monde va avoir les yeux braqués sur la France, sur le sport cet été. Donc, à Nantes, il y a plusieurs actions qui sont menées puisque Nantes accueille aussi des épreuves, notamment à la Beaujoire. Donc, de toute manière, il y a des animations qui sont prévues, en tout cas en parallèle, mais à proximité du temps des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et pour la ville de Nantes, c'était intéressant de faire un événement aussi qui montre le Baskin, qu'ils soutiennent depuis le début, depuis 2011-2012, et de donner un espace. Donc là, il y a deux belles salles qui sont mises à disposition en amont des JO. Et puis aussi cet été, on sera aussi sur des événements organisés par la ville de Nantes pour promouvoir le Baskin et donner à tout le monde l'opportunité de découvrir cette activité.
Et au-delà en fait, de la ville de Nantes, c'est vraiment un intérêt en tout cas départemental. Enfin, le conseil départemental est le partenaire privilégié aujourd'hui de l'UFOLEP. Et il y a également un soutien de la part du département sur nos activités et forcément sur l'inclusion par le sport et le sport santé. Donc ça, c'est un intérêt, on va dire, plutôt global. Et puis j'ai appris récemment aussi qu'on aura eu un appui du Conseil régional pour l'événement.
Et que pensez-vous des Jeux paralympiques ? Alors, je vais commencer par Élodie.
Alors, c'est une bonne chose qu'il y ait une meilleure reconnaissance, en tout cas, des pratiques sportives pour toutes et tous, dont les personnes en situation de handicap. Il y a une belle visibilité qui est faite sur ces Jeux paralympiques et j'espère surtout que le public répondra présent pour ces épreuves, parce qu'on focalise beaucoup sur les Jeux olympiques et sur la forte présence du public sur les épreuves olympiques. Les Jeux paralympiques sont juste après et j'espère en tout cas que les stades seront bien remplis aussi pour applaudir les athlètes qui sont en tout cas impressionnants et impressionnantes. Et d'ailleurs, il y a une bonne partie, il y a quelques athlètes qui s'entraînent en Pays de la Loire, notamment au Krebs, en para-badminton notamment. Et puis, c'est vrai, après avoir échangé avec certains ou certaines d'entre eux, ils ont un parcours qui mérite en tout cas qu'on aille les soutenir.
Et toi, Floriane ?
Je trouve que cette année, alors après c'est parce que c'est en France certainement, je trouve qu'il y a juste ce qui est intéressant, c'est qu'on met beaucoup en avant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont de moins en moins dissociés dans la communication. Donc ça déjà, je trouve que c'est une belle visibilité, ça donne l'opportunité à des personnes qui pour diverses raisons sont nées ou sont devenues en situation de handicap de pouvoir renaître par l'activité sportive. J'espère aussi qu'il y aura beaucoup de public. Après, moi, je vous avoue, je ne suis pas quelqu'un qui suit tout ça, tout ce qui est olympique et paralympique. C'est pas quelque chose que je regarde plus que ça. Mais si j'ai l'opportunité d'y aller, en fait, plus ça vient, plus je regrette d'ailleurs, en me disant, j'aurais peut-être pu essayer de m'y intéresser un peu plus. Moi, j'ai juste envie que tout le monde pratique du sport, que ce soit en compétition ou pas en compétition, olympique ou pas. J'ai juste envie que chacun se fasse plaisir dans l'activité qui lui convient et que chacun puisse trouver une activité qui lui convienne.
Et toi, Benjamin ?
Moi, je trouve que il y a toujours moyen de faire un. Je trouve que ce qu'on fait, c'est un peu un lien entre les disciplines, le sport classique et le sport para, l'inclusif. C'est vu que c'est de la mixité, c'est un peu. On fait un peu le pont entre les deux facettes du sport, donc je trouve ça chouette.
Et est-ce que c'est pas un peu frustrant le fait qu'en fait du coup les Paralympiques se déroulent après les Jeux Olympiques et pas en même temps ?
C'est une question d'adaptation des locaux et parce que justement j'ai lu pas mal de choses là-dessus puisque ça m'a agacé un petit peu que ce soit pas en même temps, mais en fait. En y regardant de plus près, il faut tellement de personnes pour encadrer les juges. Et tout ça. En fait, c'est une autre pratique. Et malheureusement, les lieux ne sont pas directement accessibles pour tout le monde. Donc, il y a toute une adaptation entre les deux événements pour que ce soit possible. En même temps, ce serait hyper long en fait, pour chaque activité. Et les stades sont transformés en fait, pour que ce soit accessible. Donc c'est la réalité de l'adaptation de l'activité. Et ce serait chouette que ça évolue encore. Voilà. Mais peut-être, déjà, ça évolue. Déjà, on en parle. Mais on ne peut que souhaiter que ça continue à évoluer dans le bon sens.
Et justement, le Baskin, justement, qui du coup, en fait, regroupe des personnes valides, des personnes en situation de handicap, pensez-vous qu'un jour, le Baskin pourrait être soit aux Jeux Olympiques ou soit aux Jeux Paralympiques ?
Aujourd'hui, ce n'est pas la vocation du Baskin d'être un sport olympique. Il faut déjà... ça fait plus de 12 ans qu'on est dans l'accompagnement, dans le développement du Baskin. L'objectif, c'est justement de permettre à des personnes qui aujourd'hui se sentent isolées et se disent « En fait, je ne peux pas faire de sport parce que j'ai un handicap. Je ne peux pas faire de sport parce que j'étais basketteur et je me suis blessée et puis je veux faire que du basket. » Et en fait, je ne peux pas parce que il n'y a pas les créneaux pour. Donc, c'est une alternative aujourd'hui, le Baskin, qui a vocation à faire en sorte que les personnes qui ne se retrouvent pas dans l'activité, on va dire, dite traditionnelle, puissent continuer à pratiquer un sport.
En tout cas, si ça arrive un jour, ça sera plus mis dans la case des Paralympiques. Parce que, par exemple, un sport comme le cécifoot, les gardiens sont voyants et jouent avec des personnes malvoyantes. Donc, c'est l'un des rares sports où il y a de la... entre guillemets, il y a une personne valide avec des personnes handicapées. Mais, bien sûr, c'est du paralympique. C'est pas, ça peut pas être dans les JO classiques. Donc le Baskin, si tu veux répondre directement à la question, ça sera au paralympique si ça arrive un jour.
Si on suit la thèse d'Alexis Vallée sur le développement des sports inclusifs, on dirait on veut des All-Impics, voilà, tous ensemble, All, ah oui, le mot anglais. On serait ni olympique ni paralympique. Et justement, Anthony, l'idée, ce serait de regrouper tous ces publics-là, mais c'est une belle utopie et c'est hyper compliqué. En fait, moi, ce qui me pose... problème un peu dans ce côté olympique, c'est les critères, les catégories. Alors au Baskin, certes, il y a 5 rôles, mais c'est pas catégorisé par handicap ou par cécité, par difficulté. C'est catégorisé au contraire par ses capacités à pouvoir faire telle ou telle chose. Donc dès qu'on arrive dans des jeux hyper dans du sport. Olympique, tout est calibré, chronométré, vérifié, voilà. Alors qu'il y a encore des choses au Baskin où, eh bien, entre rôle 4 et 5, est-ce qu'il faut le passer 5, est-ce qu'il reste 4, qu'est-ce qui fait qu'il est 4 et pas 5, enfin, voilà. On reste encore sur quelque chose, même s'il y a des critères, même s'il y a des fiches d'observation très précises, bah, il y a aussi la réalité de la personne, son engagement, le regard du coach, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. On ne peut pas juste dire, parce qu'il arrive à courir vite, ça va être un rôle 5. Voilà, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas forcément. Il y a les handicaps invisibles, il y a la déficience. Donc, c'est très complexe. Et finalement, je pense que ça nuirait un peu à la possibilité de faire jouer tout le monde. On en viendrait à avoir des joueurs et joueuses de Baskin qui ont tout un haut niveau, en fait. Et l'idée, c'est de pouvoir faire... d'ouvrir et de pouvoir faire jouer tout le monde. Voilà, qu'on soit du haut niveau ou pas du haut niveau. Mais voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve.
Et justement, y a-t-il d'autres sports inclusifs comme le Baskin en France et en Europe ?
Ouais, par l'association Novo Sport et puis par EISI en Italie. Il y a donc le volet assis inclusif qu'on a testé à Paris là, le 16 janvier. C'est pour une personne en fauteuil, une personne valide. Et puis aussi d'autres types de handicap, un peu comme l'esprit du Baskin, mais c'est 3 joueurs et on se mélange et on joue avec un gros ballon sous le filet de volet. Voilà, et c'était hyper intéressant et ça bougeait bien et ça m'a bien plu d'ailleurs dans l'idée aussi à développer ça. Et puis en Italie, il y a la boccia inclusive Et il y a aussi du baby-foot inclusif, du foot inclusif, voilà, foot-in, basket-in, basket inclusif, voilà, voilà. Il y a plusieurs activités, mais en France, peut-être Élodie, tu en connais d'autres?
Certainement, mais non, aujourd'hui, l'objectif justement, c'est de, soit de créer de nouveaux sports, et du coup de faire en sorte que ça se déploie. Parce que ce n'est pas tout de créer son activité, son sport voilà, dans son club ou dans sa ville. L'objectif, c'est que ça puisse bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Donc c'est tout là aussi, ça fait partie des points, en tout cas de ce partenariat entre Baskin France et UFOLEP, de déployer le sport inclusif dans sa globalité, le Baskin bien entendu. Aujourd'hui, moi, je n'en connais pas de sport qui s'est déployé d'une pratique vraiment de loisir à compétition avec une telle mixité dans une même équipe. Moi, je n'en connais pas.
Et donc, Florian, tu disais tout à l'heure, tu dis tout de suite que, en fait, apparemment, en Italie, il y a beaucoup plus de sports inclusifs qu'en France. Qu'est-ce qui fait que, du coup, en Italie, il y a autant de sports inclusifs que comme ça,
Une volonté des gens, l'inclusion dès l'école. Des personnes et des parents qui se battent pour ça. Enfin, concrètement, c'est parti de parents et un prof de PS, mais c'est les familles. Et puis, un choix politique d'inclure tout le monde à l'école, dès l'école maternelle, et de ne pas structurer, de ne pas mettre en place des voies différentes suivant tel type de déficience, de handicap, mais de mettre tout le monde à l'école. Alors après, voilà, il n'y a pas que des choses positives, mais en gros, le fait que tout le monde aille à l'école, tout le monde est sensibilisé au handicap, et tous les profs, tout le monde doit essayer d'inclure. Donc c'est l'historique qu'on peut regarder assez facilement, et l'historique du basket nous prouve cela. Après, aujourd'hui, qu'il y a aussi d'autres sports inclusifs, ça vient de ces mêmes personnes qui ont décidé de mettre en place une association nationale de sports inclusifs qui sont reconnues par le comité paralympique en Italie et qui se battent pour ça et qui font de la communication et qui sont présents et qui sont bénévoles plus.
Et du coup, qu'est-ce qui a fait, Benjamin et Florian, que vous ayez envie de pratiquer le basket? Alors, je commence par toi, Benjamin.
Moi, je suis arrivé à Nantes en 2013, mais en 2014, en fait, je voulais vraiment m'ouvrir et trouver une association et surtout avoir envie de pratiquer un sport. Et du coup, j'en ai parlé autour de moi et on m'a parlé du basket rapidement et on m'a donné les contacts de Florian, donc je l'ai contacté, puis ça allait vite. Et puis du coup, j'ai découvert la discipline et puis j'ai pas lâché derrière. Je suis toujours là, 10 ans après, je suis toujours là. C'est le bouche à oreille, c'est les connaissances. Voilà, ça s'est fait rapidement comme ça.
Et d'ailleurs, Florian, je crois que c'est toi que tu as été à l'initiative justement du développement du basket du coup en France, d'abord à Nantes et après dans d'autres villes. Alors, qu'est-ce qui a fait, toi, Florian, que tu t'es intéressé au basket et que tu as envie d'en faire?
Moi, en fait, je travaille en institut médico-éducatif, donc tout l'inverse de ce qui se passe en Italie, avec des enfants tous déficients intellectuels ou avec des troubles du spectre autistique. Et moi, j'avais envie de donner l'opportunité à ces enfants de pratiquer du sport avec d'autres enfants valides. Et c'était pas simple dans les années 2000. Et avec Céline, une amie qui faisait du basket et qui travaillait à l'IME aussi, on a décidé d'aller voir un peu plus près de ce qu'était le basket. Parce qu'à l'époque... En fait, donc moi je fais partie d'Orea aussi, hein, c'est pas un secret. Donc Orea a été connu par un de mes amis en Italie qui me disait « Ah mais toi tu veux promouvoir le vivre ensemble, mais tu sais qu'il existe le basket. » Et j'ai fini par aller voir avec Céline et Max en Italie. Et on a craqué tout de suite en disant « Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire, pourquoi on a mis aussi longtemps à aller voir ?» Pour autant, voilà, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas une image claire de ce que c'était. On avait acheté des paniers beaucoup trop gros, voilà, tout le monde marquait les paniers, c'était trop facile au début. Et voilà, on s'est formés et l'idée, elle est là. L'idée, elle était d'ouvrir la possibilité d'une pratique pour ces enfants avec d'autres enfants. Finalement, ça a plutôt commencé avec des adultes, avec les amis d'amis. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est 13 clubs et on est à 350, presque 400 licenciés qui pratiquent le baskin. Donc c'est petit à petit, mais ça grandit.
13 clubs en France ou 13 clubs dans toute l'Europe ?
13 clubs en France. En Italie, il y en a 150 des clubs. Donc déjà, voilà. et après, il y en a en Allemagne, en Grèce, en Serbie, Belgique, Luxembourg, Espagne, Angleterre.
Ça laisse une marge de progression. Donc de 13, on doit passer à 150.
Et il y en a au Sénégal d'ailleurs. Bravo les Sénégalais. Ils ont organisé leur premier tournoi avec une équipe italienne il y a quelques semaines.
Et êtes-vous en lien avec des clubs de basket valides ?
Oui, il y a certains clubs de baskin qui sont une section d'un club de basket. C'est le cas du Smash en Vendée, c'est le cas de l'Étoile de Clisson.
Le BCCFV aussi.
Merci, le BCCFV. Et à Strasbourg aussi. Bien que je crois que ce n'est pas qu'un club de basket, c'est une association multisport qui propose du basket à Strasbourg. Et sinon, c'est des associations soit créées comme à l'Amicale Laïque Baskin Nantes Nord pour le baskin. Auréa, c'était plus une association de vivre ensemble, de sensibilisation au handicap, qui s'est mise au baskin en 2011. Et à Lyon, alors à Lyon, on a différentes choses. On a des maisons pour tous. On a, depuis quelques mois seulement, un club de basket. Et sinon, des amicales laïques de l'UFOLEP. Voilà. Et Paris, c'est une association un peu comme Auréa, et d'étudiants de promotion de sport inclusif. Ils développent leur propre sport inclusif. Je pense que j'ai fait le tour un peu sur les...
Ouais, je pense.
Alors, observez-vous des changements de regard et de mentalité concernant l'accessibilité et le handicap ? Alors, je vais commencer par toi, Benjamin.
C'est-à-dire que il y a des années... On se disait qu'une ville comme Nantes, par exemple, c'était à la pointe du développement pour l'accessibilité et tout ça. Mais c'est de plus en plus compliqué. Et puis, y a eu des lois qui ont été mises en place, mais pas forcément respectées. Donc, tout ce qui est accès aux bâtiments administratifs et tout. On a tous un peu ce problème-là. Pour moi, l'accessibilité, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Et toi, Floriane ?
Je vais répéter la question.
Alors, je demandais voilà, si vous observez des changements de regard et de mentalité concernant le handicap et l'accessibilité en général.
Ah oui, quand même, beaucoup, énormément. Mais oui, je suis d'accord, je te rejoins. Benjamin, il y a encore beaucoup à faire. Et puis, il y a des bâtiments qui sont très difficiles à rendre accessibles. Après, on pourrait toujours déménager des choses dans d'autres endroits pour que ça le devienne. Mais voilà, il y a des choses qui sont longues à mettre en place. La loi 2005, on est en 2024 et tout n'est pas accessible.
C'est pour ça que je réagis comme ça.
Voilà. Mais sur le regard, oui. Au début d'Auréa, je vais prendre l'exemple. Quand je suis avec toi, Benjamin, ou Anthony, ou d'autres personnes en situation de handicap, souvent on s'adressait qu'à moi, en fait. Et maintenant, on s'adresse à vous. Enfin, je trouve que les gens, quand même, sont plus ouverts, se disent pas « Ouh là là, il est en fauteuil, est-ce qu'il va comprendre ce que je dis ?» Ça n'a rien à voir, mais oui, il va comprendre ce que tu dis. Mais voilà, les gens sont quand même de plus en plus sensibilisés, je trouve. Même s'il y a encore beaucoup de maladresse ou de regards un peu fuyants et tout, et on ne sait pas toujours comment se comporter, en soi, les gens sont plutôt ouverts à la discussion et à apprendre. Même à l'école, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Moi, je vois à l'IME, on a quand même un autre public qui a 10-15 ans. Il y a plus d'inclusion pour tous ceux pour qui c'est possible. Mais je pense qu'il y a aussi qu'il faut de tout. Voilà, il faut des lieux spécifiques et des lieux où on peut tous avoir accès, que ce soit l'école ou d'autres activités. Mais sur les activités aussi, il y a quand même de plus en plus de pratiques sportives. Il y en a des nouvelles qui sont créées. Alors des fois, c'est juste un club qui propose quelque chose. C'est pas connu et ça permet pas à beaucoup de personnes de pratiquer. Mais en soi, il y a quand même de plus en plus de possibilités. Par contre, pour ce qui est des créneaux et de mettre en place des nouvelles activités et avoir accès à des gymnases accessibles, ça reste encore un challenge, c'est sûr. On veut tous les mêmes horaires.
Oui, vous arrivez finalement à se trouver assez de créneaux pour faire le baskin, du coup
Non, je peux quand même pas dire ça. Non. Non, on est obligé de mettre les samedis après-midi à la place des matchs, des créneaux. On est, le soir, c'est 19h, ça reste convenable, bien sûr. Mais si on voulait, on voudrait plus de créneaux pour certains clubs. Jouer à Clisson, ils voudraient un autre créneau. Nantes, on aimerait bien un autre créneau pour les juniors ou plus longtemps. Et c'est hyper compliqué. Mais ça, je pense que c'est dans toutes les villes en France. Enfin, malgré les JO, on n'a pas construit beaucoup plus de gymnases.
Et en fait, il y a des gymnases. En fait, pour le sport, il y a des lieux accessibles, mais il n'y en a pas encore suffisamment pour que toutes les disciplines puissent se créer, pour que toutes les personnes en ce handicap puissent faire du sport comme elles le voudraient.
Oui, après, sur la difficulté, en tout cas, d'avoir des créneaux de gymnase, elle est la même pour beaucoup, beaucoup d'activités. Hein. Ce n'est pas uniquement pour le baskin ou pour tout type de sport inclusif. C'est vraiment une difficulté et les collectivités sont bien au fait de ces difficultés et essayent de faire au mieux.
J'élargirais que ce n'est effectivement pas la problématique du baskin en soi, mais du loisir. En fait, si tu ne mets pas dans ta demande que tu as une équipe en championnat ou qui fait du département ou du région, ton créneau, tu l'as à 21h ou 22h. Quoi.
Tout dépend de la politique de la collectivité, en effet. Après, plus généralement, sur le handicap au sein des activités UFOLEP, c'est vrai qu'il existe dans les fédérations sportives une fédération française handisport, une fédération de sport adapté. Et l'UFOLEP, nous, on ne s'est jamais positionné pour, en tout cas en Loire-Atlantique, pour accompagner des associations qui proposent de l'activité uniquement avec des personnes en situation de handicap. C'est pour ça que le baskin, qui est en mixité, nous a parlé. En tout cas, au moment où j'ai découvert le baskin, je me suis dit, mais c'est trop bien. Et c'est pour ça qu'on continue et qu'on se lance dans cet événement là, des Baskin Games, qui est un petit peu un défi aussi, parce que même si on organise des événements nationaux ou même des championnats départementaux ou régionaux chaque année, la question de l'accessibilité, on va dire, ça correspond à un petit effectif finalement dans les autres activités qu'on peut accompagner. C'est-à-dire qu'on va veiller, quand on organise une compétition nationale, si je prends l'exemple, on a organisé une compétition nationale de tir à l'arc il y a quelques semaines, on a cette question de l'accessibilité. Est-ce que le site est accessible? Est-ce que une personne en fauteuil passe bien partout? Est-ce que le bar, il est à bonne hauteur? Est-ce que une personne déficiente visuelle, on va pouvoir l'accompagner sur le site, sur les épreuves, jusqu'au pas de tir? Là, c'était du tir à l'arc. Donc oui, on se pose cette question-là, cette question aussi pour tout ce qui est la logistique des sanitaires, etc. Là, pour le baskin, c'est une autre mesure, parce qu'on n'a pas une ou deux personnes qui sont en situation de handicap. On a 8 équipes au total, et dans les équipes, potentiellement 2, 3, 4, 5 personnes qui vont avoir besoin d'une attention particulière. Donc, que ce soit en effet. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a essayé de trouver des sites qui sont à proximité, que le lieu d'hébergement, donc qui sera, toutes les équipes seront logées au Centre international de séjour de Nantes, donc le SPOT, avec qui on a dû vraiment réfléchir aussi, donc combien de chambres PMR on a besoin, etc. C'est un niveau au-dessus, j'ai envie de dire, nous aussi à l'UFOLEP, on aime les défis, et puis on aime les beaux événements comme ça, donc il n'y avait pas de raison, en tout cas, qu'on se bloque là-dessus.
Et donc, recherchez-vous des bénévoles ou avez-vous d'autres besoins pour le tournoi européen des Baskin Games?
Alors, il y a un appel à bénévoles qui a été lancé. En effet, on ne peut pas organiser à 10 un événement de cette ampleur. Donc, l'appel à bénévoles a été lancé pour accompagner sur les différentes missions d'accueil, d'accompagnement des équipes, de logistique, restauration, buvette. Mais aussi, après, il y a certains bénévoles qui seront positionnés spécifiquement sur la compétition, en tout cas, vraiment le lien avec les équipes, la communication et les temps d'animation dont on a parlé tout à l'heure, de sensibilisation au handicap. Vu qu'au niveau de notre comité de pilotage pour cet événement, on est en mixité hein, entre des personnes valides et des personnes en situation de handicap, on essaye aussi, on veut que dans les bénévoles, et que ce soit le fil rouge aussi de cette mixité dans les bénévoles, on puisse accueillir toutes les personnes qui veulent donner un coup de main.
Et si on veut vous aider, être bénévole ou avoir des renseignements sur le tournoi européen Les Basking Games ou sur vos structures, comment peut-on vous contacter ?
Alors, sur le site de l'UFOLab 44, il y a une page dédiée aux Basking Games, mais après, il y a un relais aussi sur
les réseaux sociaux. Et sur le site de Basking France, et puis Auréa, si on va mettre ça sur les trois associations qu'on organise, et les réseaux sociaux, parce que Benjamin, il fait vivre ça.
Oui, c'est ma mission. Globalement, oui, je fais ça, et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, je vais continuer dans cette voie-là.
Donc, sur Instagram, sur Facebook.
Oui, donc sur le site. Si on tape sur un moteur de recherche, les réseaux sociaux, les sites internet Auréa, Basking France et UFLAB 44, ainsi que tous les réseaux sociaux, on trouve facilement du coup le tournoi des Basking Games, et puis du coup l'appel à bénévoles. Par contre, je pense toujours à ça. Pour les personnes qui n'ont pas Internet, mais qui auraient envie soit d'avoir des renseignements ou de vous rejoindre, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous contacter ?
Alors, faut pas hésiter à appeler à l'UFOLEP 44. Donc, tu veux que je donne le numéro directement ?
Si tu veux bien,
02 51 86 33 34. Voilà. S'il y a un renseignement à donner.
Et donc, du coup, on te demande toi, ou bien on appelle. Est-ce que c'est toi qu'on demande en particulier, ou bien est-ce que n'importe quelle personne qu'on aura à l'UFOLEP, on lui dit qu'on veut aider, et du coup, ce sera orienté
On est une équipe, donc quand il y a un message qui est passé, de toute manière, je ne suis pas la seule à l'UFOLEP à connaître le Basking et à savoir ce qui s'y passe, heureusement. Il y a toute une équipe, donc de toute manière, si une personne appelle à ce numéro et veut avoir des renseignements sur le Basking, on donnera les informations nécessaires.
Eh bien, merci Elodie, Benjamin et Florian d'être venus nous parler du Basking et entre autres du tournoi européen, les Basking Games, qui, je le rappelle, aura lieu les 5, 6 et 7 juillet prochains. Au Palais des Sports de Beaulieu et au gymnase Prégaucher à Nantes.
Coup de cœur. La chronique pour partager un coup de cœur vu ou entendu.
Alors tout de suite, on écoute la chronique d'Alice. Alice qui va nous faire découvrir un dialecte qui s'appelle le gallo. Alors rien à voir avec le galop des chevaux, c'est seulement un dialecte très intéressant à connaître et à découvrir. On t'écoute Alice.
Merci Anthony. Effectivement, moi je vais vous emmener dans une soirée que j'ai vécue le mois dernier. Et en fait... je fais partie d'une association qui, une fois par mois, où on va découvrir une langue et un dialecte, qui est l'association Libersensi. Et effectivement, là, cette fois-là, c'était dans une crêperie, la crêperie chez Canel, à Nantes. Et c'était sur le dialecte, le gallo. Et... il y avait un monsieur qui nous a expliqué ce qu'était le gallo, effectivement, qui est un dialecte, et qui est... parce qu'en Bretagne, il y avait deux langues. Il y avait la langue bretonne, qui était à l'ouest de la Bretagne, et qui descendait aussi dans la Loire-Atlantique. Et il y avait le gallo. Alors, le gallo, si je peux essayer de dire des mots, ça va être compliqué. Si, ça, au lieu de dire « moi », par exemple, c'est « maille ». Aujourd'hui c'est un œil, j'espère que je dis bien. Et ce monsieur-là nous a expliqué que c'est un dialecte de très loin, qui nous a expliqué aussi certains mots, nous a raconté des histoires dans ce langage. Et dans ces histoires, des fois il faisait des pauses en nous disant en français d'aujourd'hui ce que ça voulait dire, de façon qu'on puisse comprendre l'histoire. Donc il nous faisait un peu une traduction. Il nous a joué aussi de la musique avec un petit accordéon. Et comme nous, on était un groupe de personnes non et malvoyantes, il a fait la carte en relief de la Bretagne et du Pays de Loire, non, de la Loire-Atlantique. Et on avait comme si c'était coupé en deux. Donc à gauche, c'était la langue bretonne, donc c'était avec des petits carrés. Et si je ne me trompe pas, à droite, c'était la langue gallo, donc les villes étaient représentées en petits triangles. Donc à Nantes, on a parlé gallo à un moment donné. Voilà, parce que comme Nantes est très, très, très attachée à la Bretagne aussi. Et pour parler aussi de la crêperie, dire que cette crêperie, elle est accessible pour tous, toute personne, handicapée ou pas. Et puis nous, les personnes non-voyantes, on a aussi cet honneur d'avoir une carte en braille du menu. Comme ça, soit on a le choix, on se dit, la serveuse, elle va nous dire ce que c'est le menu, et elle va nous donner envie de manger telle ou telle crêpe ou telle galette. Ou soit, avec nos petits doigts, on va lire le livre, parce que c'est du braille, donc on va pouvoir choisir tranquillement sa petite galette ou sa petite crêpe.
Et alors, si je peux compléter, Alice, si des personnes veulent aller manger dans cette crêperie, l'adresse, donc, c'est chez Canel, 4 rue Émile Masson à Nantes. Et donc, cette crêperie, bon, bien sûr, il y a les crêpes et galettes, mais ils organisent aussi régulièrement des soirées. Et donc, l'association Libère Sensi, avec qui on était, organise régulièrement aussi des soirées dans cette crêperie, des dîners sous bandeau, des soirées comme là, on a pu faire avec le galop. Donc, eh bien, du coup, l'émission Access se termine. Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter qu'on a eu de plaisir, nous, à l'animer. Donc, je remercie Nelson pour la réalisation. Je remercie, bien sûr, mes invités, nos invités. Élodie Goriot, directrice de l'UFOLEP 44, Floriane Nivet, présidente de Baskin France, et Benjamin Boucheron, membre du conseil d'administration d'Orea et de Baskin France. Le prochain access sera. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain access le 18 juillet. Dans un instant, nous allons vous laisser avec la musique, les programmes de Prune. Et ne manquez pas de 17h30 à 18h30, ne manquez pas de 17h30 à 18h30 l'émission Curiosité. Excellente journée à l'écoute des programmes de Prune.
Retrouvez le podcast de cette émission sur prune.net.